Bonjour, Marco, comte à rebours. Quel bonheur cette voix, ce générique, comme il est magnifique, c'est le générique de Comte à rebours. Une émission hebdomadaire que vous pouvez retrouver, eh oui, tous les mercredis. Mais qu'est-ce qu'elle raconte cette émission ? Eh bien des histoires, des contes en fait, hein, des légendes parfois, tout un tas de choses. Et aujourd'hui, comme la dernière fois, nous partirons dans le Kirghizistan, ou bien en Kirghizie, ou bien chez les Kirghizes. Mais avant de commencer, avant de partir là-bas, c'est loin, hein, c'est la route de la soie, c'est juste après le désert de Gobi, juste après les monts Pamir, quelque part par là, il y a le Kirghizistan, c'est au nord de l'Afghanistan, mais c'est loin. Mais avant, une petite histoire, une très vieille histoire chinoise même, que j'ai déjà contée à cette antenne, mais c'était dans une autre émission. Cette très vieille histoire chinoise nous parle d'un jeune homme qui observe un vieil homme au puits du village. Il fait descendre un seau en bois et au bout d'une corde, et puis il le remonte une fois rempli avec une certaine lenteur, puisque ça demande un certain effort. Le jeune homme s'éloigne, puis revient avec une espèce de treuil. Il s'approche du vieil homme et lui montre comment il pourrait l'utiliser. Vous placez la corde dans la roue, vous pouvez remonter le seau en tournant la manivelle, c'est beaucoup plus facile. Le vieil homme dit alors au jeune, « Si j'utilise un outil comme celui-là, mon esprit va se croire intelligent. Avec un esprit malin, je ne vais plus mettre mon cœur dans ce que je fais, et bientôt, seuls mes poignets travailleront. Si mon cœur et tout mon corps ne participent pas à ce travail, celui-ci deviendra sans joie. » Et si mon travail est sans joie, quel goût aura l'eau, selon toi ? Le pays des Kirghizes est sec et aride. Au nord s'étend une steppe immensément plate et déserte qui rejoint la Sibérie. C'est loin. Au sud se dressent les flancs dénudés des massifs montagneux du Tien Shan et du Pamir. Seule la longue vallée du Fergana dans les monts du Tien Shan offre une herbe verte et précieuse. Les Kirghizes y élèvent des moutons, des vaches, mais aussi de grands chevaux rapides qui firent la gloire de la cavalerie chinoise pendant des siècles. L'été, ils montent dans les alpages faire brouter leurs troupeaux. Et comme les Mongols, les Kirghizes vivent dans des yourtes, un peu plus petites, mais rondes aussi, et y cultivent parfois un petit bout de terre. Dans la vallée du Fergana, un vieux Kirghize avait toute sa vie vécu de vol et de rapine, tant et si bien qu'il était devenu voleur de métier. Alentour, tout le monde le craignait et le respectait, car il n'avait pas son pareil pour monter des affaires. Louche, bien sûr, mais des affaires quand même. Rien ne l'effrayait, pas même voler une caravane de 100 chameaux. C'est vous dire si l'homme était habile. « Mon fils, dit-il un jour à son unique enfant, il est temps que tu apprennes un métier. Si tu as du respect pour ton père, fais-toi voleur comme lui. »« Ah, mon père, répondit le fils, le respect que j'ai pour toi est grand. Mais si tu veux faire de moi un homme, surtout ne m'oblige pas à voler pour vivre, car je veux gagner ma vie en travaillant. Fils indigne, qui refuse de suivre la voie de son père !» s'exclama aussitôt le père, les yeux plissés de colère. « Tu crois être assez sage pour te passer de conseils, alors qu'hier encore tu t'étais le lait de ta mère ? A-t-on jamais vu un garçon faire ainsi le fier ? Écoute-moi, dès ce soir, tu iras voler le bœuf blanc de Jouchbé. Je veux le voir demain matin devant la yourte. Et si tu en es incapable, ne t'avise pas de te présenter devant moi, mais disparais à jamais de ma vue, que je t'oublie. » Alors, le fils se dépêcha de seller son cheval pour monter dans les alpages. Là, il vit paître le troupeau de Jouchbé. Mais il continua sa route jusqu'à la yourte ronde du berger, qu'il connaissait bien. « Le salut sur toi, Jouchbé !» fit-il en descendant le cheval. « Sur toi le salut, mon garçon !» répondit Jouchbé, bienveillant. « Tu as dans ton troupeau un grand bœuf blanc. Une bête grasse à souhait. Combien en demandes-tu ?
Un grenier de blé. Jouchbé, tu veux m'étrangler ? Ce bœuf n'est pas tout jeune. Si j'arrive à tirer quelques roubles de sa peau, c'est que je suis bon tanneur ou bon vendeur.
Combien en proposes-tu ?
Un demi-grenier de blé sur la récolte d'automne. Les blés sont prometteurs, tu ne seras pas mécontent. »
Et bientôt, l'affaire fut conclue. Si bien que le lendemain matin, quand le vieux bandit se leva, il vit paître le bœuf devant sa yourte. Mon fils fera un meilleur voleur qu'il ne veut le croire, se réjouit-il en se frottant les mains. Puis il appela le garçon pour qu'il abatte et dépaisse l'animal. La bête était de belle taille, c'était un gros travail. Enfin, le soir arriva, vint l'heure de dîner. Le ragoût de bœuf avait mijoté dans le chaudron tout l'après-midi et la yourte sentait bon. Le fils sortit une vieille balance du coffre et dit à son père « Père, avant de goûter la viande, pesons-nous donc sur la balance. Quand nous aurons mangé tout le bœuf, nous saurons si nous avons bien grossi. » 10 jours passèrent. Bientôt, il ne resta plus de viande, pas même quelques morceaux à faire sécher pour l'hiver. Alors le père et le fils remontèrent sur la balance. Le vieux s'étonna. Il avait perdu 2 kilos, alors que son fils, qui mangeait moins que lui, avait grossi de 3 bons kilos. «
Il y a là un mystère que je ne m'explique pas, » s'indigna le vieux.
« C'est que, mon père, les soucis rongent le corps comme le sel la peau. »
« Que veux-tu dire ?»«
Que si tu avais eu l'esprit plus tranquille, tu aurais grossi comme moi. »
« Je ne comprends pas. Allons, mon père.
N'est-il pas vrai que depuis 10 jours, la crainte te serre le ventre à l'idée que Jouchbé découvre celui qui lui a volé son beau bœuf blanc et nous conduise tous deux devant le juge ?
Mon fils, ce que tu dis là est juste.
Tandis que moi, j'ai la conscience en paix. »
« Et pourquoi donc ?
Parce que ce bœuf, j'ai préféré l'acheter plutôt que le voler. Alors sa viande me profite. » Pendant que les soucis te creusent le ventre plus sûrement que la famine. » Ces sages paroles plongèrent le vieux dans la consternation. La tête penchée vers le sol, il ne disait mot, il tortillait nerveusement sa moustache. Et soudain il s'écria, en se dressant sur ses jambes.
« Ah, mon fils, si tu as du respect pour ton père, je t'en conjure, renonce à te faire voleur comme lui. » Car c'est là le pire des métiers.
Ne bilmek sen ay bulup soradım.
Voilà, la seule musique réellement kirghize que j'ai trouvée. Ceux qui sont des fidèles de l'émission l'auront déjà entendu la semaine dernière. Alors que sinon, cette histoire, le fils du voleur, une histoire kirghize, eh bien, a commencé par une musique ouzbek. Hein. Alors, il faut rendre aux ouzbeks ce qui appartient aux ouzbeks. Mais figurez-vous que les musiques quand même voyagent tout comme les histoires. Et la preuve, c'est que les Kirghizes ont un héros bien connu de tous les enfants et même des adultes. Un petit homme roublard et rusé d'esprit. Un maître en fourberie, il a plus d'un tour dans son sac pour arranger ses affaires, venir à bout de la bêtise des uns ou l'insolence des autres. Ah, vous croyez que peut-être vous le reconnaissez déjà. Il l'appelle Apandi ou Apendi. Apendi. Eh bien oui, c'est ni plus ni moins le même personnage que celui qu'on appelle en Turquie par exemple Nasreddin, celui qu'on appelle le Hodja ou celui qu'on appelle en Israël Tcha. Celui qu'on appelle, moi je ne me rappelle plus son nom, il est dans tout le bassin méditerranéen, il est aussi en Russie, en Ukraine, il est aussi eh bien, en Afghanistan, au Pakistan et donc chez les Kirghizes. Et j'ai déniché trois histoires d'Apendi, des histoires qui sont effectivement des histoires de Nasreddin puisque on les connaissait toutes mais dans un autre univers. Alors, par exemple, Apendi, donc le Nasreddin kirghize, habite bien sûr dans une yourte et il a affaire à Lishan. Lishan, c'est, on va dire, c'est le curé, hein, c'est le curé, voilà, en quelque sorte. Donc, la première histoire, c'est l'histoire d'Apendi avec Lishan. Apendi était fatigué d'avoir étiré la peau d'un mouton toute la matinée. Il s'assit devant sa yourte et, levant les yeux au ciel, s'écria : Oh mon Dieu ! Donne-moi seulement 100 pièces d'or, tiens, et j'honorerai ton nom tous les jours de ma vie. 100 pièces d'or, c'est tout ce que je demande. Pas une de plus, pas une de moins. Foi jurée, si le compte n'y est pas, je n'y toucherai pas. Oh ! Lishan, son voisin, un religieux très pieux et très préoccupé des affaires de la religion, entendit ces paroles. Ce fourbe d'Apendi, dit-il enfin la vérité ou ment-il comme à son habitude ? J'ai bien envie de le mettre à l'épreuve. Rentré chez lui, Lishan ouvrit son gros coffre de bois et prit 99 pièces d'or, pas une de plus, pas une de moins, qu'il glissa dans une bourse de cuir. Puis, le lendemain matin, alors qu'Apendi s'affairait sous sa yourte, sa fenêtre de toit grande ouverte, il s'approcha sans bruit. Et avec toute la force de son vieux bras, il lança la bourse de cuir bien haut dans le ciel afin qu'elle retombe par la fenêtre, comme par hasard, au pied de son coquin de voisin.
Jour glorieux entre tous ! Le ciel a exaucé mon vœu !
S'écria Apendi en découvrant près de sa marmite la grosse bourse ventrue gonflée de pièces. Et sans plus attendre, il les compta.
Une, deux, trois, quatre, cinq. Bon, je vous passe la suite, hein. Il est arrivé jusqu'à 98, 99, plus une belle bourse de cuir qui vaut bien une pièce d'or, ce qui fait 100. Allah, 10 fois 5, béni soit ton nom. Par le ciel et la terre, je chanterai tes louanges, ma fortune est faite. Dehors, Lishan, qui avait collé son oreille à la paroi de feutre, trembla pour ses pièces. Il entra précipitamment.
« Hé, Appendi, cesse donc de danser comme un écervelé à travers ta yourte et modère ta joie.
Ces pièces d'or, ce n'est pas Dieu qui te les envoie, c'est seulement moi, car je voulais te mettre à l'épreuve. Or, souviens-toi de ta promesse. Hier, tu as dit, 100 pièces d'or, c'est tout ce que je demande, pas une de plus, pas une de moins. Faut jurer, si le compte n'y est pas, je n'y touche pas. »
Et tu vois bien que le compte n'y est pas. Alors, rends-les-moi.
Mais non, Ishan, mais non, tu te trompes. C'est bien Dieu qui a entendu ma prière. D'ailleurs, compte-toi-même, avec la bourse, ça fait 100. Et comme Lishan, cloué d'indignation, ne disait mot, Appendi ajouta en riant, « Si tu ne crois pas mon calcul exact, demande donc à Dieu qui a raison. »
Appendi et les enfants. Quatre enfants voulurent un matin jouer un tour à ce fourbe d'Appendi. Pour une fois, ce serait lui, ce coquin d'homme qui mangerait la poussière du chemin.
« Appendi, Appendi, sais-tu ce qui doit arriver demain ?»
lui demanda très sérieusement le plus âgé des quatre garçons.
« Non, dis-le-moi donc. »«
Demain, c'est la fin du monde. C'est Lishan lui-même qui l'a dit. »«
Vraiment ?»«
Oui, oui. »
D'ailleurs, tu ferais bien de faire rôtir ton agneau aujourd'hui, parce que demain il sera trop tard.
Plus personne ne sera là pour le manger, ni toi, ni moi, ni personne d'autre.
Oh, vous faites bien de me prévenir, les enfants.
Et puis vous avez raison, il faut aller chercher cet agneau sans tarder. Venez donc avec moi.
Appendi et les enfants s'installèrent au bord du lac pour égorger l'animal. Pendant qu'Appendi dépeçait la bête, les enfants ramassèrent quelques branches de bois bien secs pour faire le feu. Puis ils déclarèrent « Maintenant, fais cuire l'agneau, nous allons nous baigner. » Ils étaient tellement excités qu'ils se déshabillèrent en toute hâte. Un pantalon à droite, une tunique à gauche, une botte par-ci, une botte par-là, quel désordre, il y en avait partout. Dès qu'Appendi les entendit barboter dans l'eau, se chamailler et se poursuivre en riant, il ramassa les vêtements, un à un, et les jeta dans le feu. Puis il se frotta les mains en regardant les flammes crépiter joyeusement. Enfin, les enfants sortirent de l'eau.
« Appendi, Appendi, où as-tu gâché nos habits ?»
s'écrièrent-ils, tout ruisselant et frissonnant.
« Ah, mes amis, ne les cherchez pas. Comme l'agneau ne cuisait pas assez vite, j'ai dû les mettre au feu pour nourrir la flamme. De toute façon, j'ai pensé que vous n'en auriez bientôt plus besoin, puisque demain, c'est la fin du monde. »
Appendi et le Khan. Le Khan, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu le seigneur, quand même. Hein, il y a le grand Khan, certes, mais là, c'était sans doute un petit Khan ou un moyen Khan. Un jour d'été, Appendi accompagna le Khan et son fils à travers la steppe. Il faisait terriblement chaud et les deux seigneurs, gras comme des moines dodus, suaient à grosses gouttes. Épuisés, ils s'arrêtèrent finalement au bord de la piste pour enlever leur lourd manteau brodé. Appendi, un fidèle serviteur, dut les charger sur son dos. Quand il se releva, plus courbé et plus cassé qu'une petite vieille dans son fardeau l'accablait, le fils du Khan éclata de rire.
Ah, mon père, voilà notre Appendix qui porte la charge d'un âne.
Ah non, dit Appendix, ce n'est pas la charge d'un âne, mais bien celle de deux ânes que je porte.
Et comme il redoutait les coups de fouet du vieux canin en colère, il lâcha les manteaux et s'enfuit en courant. Compte à rebours, c'est terminé pour aujourd'hui. On était parti au Kirghizistan et la semaine prochaine, on se retrouve bien sûr, mais je ne sais pas encore où on ira. À la semaine prochaine, donc c'était Marco.